Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Bonjour, merci Henri Laurence d'être avec nous ce matin. Vous êtes titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Votre cours porte depuis l'an dernier sur les provinces arabes à la fin de l'époque ottomane. Donc après avoir enseigné pendant 20 ans sur la question de Palestine, vous revenez en quelque sorte aux sources de la dispersion. Vous auscultez, si je puis dire, les origines du symptôme. Vous analysez les tentatives de modernisation engagées par l'administration centrale de l'Empire ottoman et la manière dont ces tentatives sont reçues dans les provinces arabes. Vous examinez les conflits engendrés par la modernisation de l'État et par le rôle pervers joué par les puissances occidentales. Donc, quelle est la source de ce projet ?
Alors, d'abord, il y a toute une continuité, puisque dès l'origine de mes premiers travaux, je me suis installé, enfin, dans un projet d'étude de comparer, mais par le biais des intersections. Et donc, l'intersection, c'est le lieu ou le moment dans lequel les mondes se rencontrent. Donc, la première intersection que j'avais étudiée jadis, et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, par petits coups, c'était l'orientalisme. La seconde a été tout mon bloc d'ouvrages autour de l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Et donc la troisième était la question de Palestine. Et là, j'aborde donc une quatrième intersection. Et là, on se laisse toujours prendre par la documentation, par le projet, c'est-à-dire qu'on part avec une idée un peu préconçue, et puis c'est en travaillant qu'autre chose prend forme. Et je me suis éloigné de mon projet tout à fait initial, ce qui fait rigoler mes jeunes chercheurs qui me taquinent sur ce point, puisque au départ, je pensais faire quelque chose qui devait déboucher tout de suite sur la Première Guerre mondiale au Proche-Orient. Et maintenant, ils disent à justice que, vu le rythme auquel je me suis lancé, on abordera peut-être la Première Guerre dans 5 ans. Parce que, en fait, ce que je suis en train de faire quelque chose, d'un côté, entre un vagabondage entre Orient et Occident, au sens où j'ai des personnages qui passent d'un monde à l'autre dans ce cours. Et d'autre chose, c'est un peu la notion de nœud, au sens où ce Genitsyn utilise la notion de nœud dans la roue rouge. Vous savez, ce complexe d'événements qui se réunit sur une période temporelle relativement courte. L'histoire de la roue rouge chez ce Genitsyn, c'est une série de nœuds. Et donc, dans le cours de cette année, on a commencé à aborder le premier nœud, qui est la période de 1876-1882. Tout le cours de l'année prochaine portera toujours sur ce nœud, et même, je crains, un petit peu du cours l'année suivante.
Et on a l'impression vraiment, Henri Laurence, que finalement, ces symptômes que vous détectez dès cette fin du 19e siècle sont encore aujourd'hui en activité, d'une certaine manière, dans le monde arabe.
Symptôme, je ne sais pas, parce que vous voudriez dire que c'est un monde qui soit malade. Non, au contraire, vous avez une vision politique ou idéologique contemporaine, un peu différente de celle que j'ai rencontrée quand j'étais jeune chercheur. Mais en gros, vous avez l'idée que vous avez eu une renaissance culturelle et politique à la fin du 19e siècle, et que cette renaissance aurait en quelque sorte été trahie par les États arabes indépendants après la Seconde Guerre mondiale. Alors, évidemment, les réalités sont plus diverses, plus complexes que cela, mais cette idée, justement, qu'il y a eu quand même un libéralisme arabe et un libéralisme musulman, est une idée importante pour affronter le XXIe siècle, ne serait-ce que pour dire que ceux qui défendent les valeurs libérales ne viennent pas de l'extérieur de leur propre culture, mais ils peuvent s'appuyer sur un ensemble de personnalités, d'auteurs et d'écrits dans leur propre langue de la fin du XIXe siècle. Ce qu'il faut casser, c'est le discours endogène-exogène, comme quoi la modernité serait un produit de l'Occident qui serait imposé à des sociétés. Ce que vous avez, bien évidemment, la modernité, elle est définie par les termes que l'Occident pose au XIXe siècle. C'est une évidence, tout simplement parce que les canonnières ou les cuirassés occidentaux sont là au large des ports. Et si on n'est pas sage, on bombarde. Donc ça, c'est une réalité. Bien là, mais en fait, il faut plutôt considérer que ces sociétés sont déjà en mouvement. Elles sont entrées en mouvement déjà dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il y a une très belle phrase de Chateaubriand quelque part qui attribue tout à Napoléon. Donc, de mémoire, il doit dire comme ça, et Napoléon dit en avant-marche et l'Orient se mit en marche. Bon, c'est du Chateaubriand. Mais l'idée qu'il y aurait eu un monde stagnant qui aurait été en quelque sorte bouleversé par l'éruption européenne est une idée totalement négative. Ce qu'il faut plutôt voir, c'est que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, vous avez des forces sociales, des groupes humains qui se mettent en place au Proche-Orient et que avec l'invasion, domination, imposition du monde occidental au XIXe siècle, ces forces-là vont entrer en discussion, en marchandage, en interaction, ne serait-ce qu'elles sont là non pas pour faire avancer, faire venir l'Occident, mais pour faire avancer leurs propres intérêts, en jouant sur telle ou telle force, sur telle ou telle alliance. Et puis, d'autre part, mais ça c'est un aspect qui n'a commencé depuis peu traité dans le cours de cette année et qui sera plus dans les années suivantes, c'est la transformation ou la mutation de la pensée islamique dans la seconde moitié du 19e siècle, ce qui est un phénomène complexe, d'abord parce qu'il n'y a pas un islam, mais on a une pluralité, et que, évidemment, les nouveaux discours musulmans sont de nature très différente et souvent antagonistes entre eux. Donc, vous pouvez avoir un islam libéral, comme vous pouvez avoir un islam de combat, et on n'est pas, c'est pas nécessairement parce qu'on est un islam libéral qu'on serait pas non plus un islam de combat contre la domination étrangère. Tout ça est évidemment varié. Mais si vous voulez, on pourrait résumer l'idée en disant que jusqu'au 19e siècle, l'islam est quelque part dans sa pensée en équilibre entre d'un côté une vision temporelle, la société islamique, le mode de pensée islamique, ce qu'on appelle à tort ou à travers la loi islamique, disons les modes d'organisation de la société montrent une vision qu'on peut appeler temporelle et qui évidemment s'incarne par l'expression de la religion. Mais en même temps, l'islam, on pourrait dire moitié-moitié pour simplifier les choses, est aussi une dimension spirituelle, mystique, du rapport entre la créature et le créateur, entre Dieu et les hommes, et ça quitte en partie le champ du temporel, c'est un autre champ. Et il y avait donc cet équilibre qui s'incarnait entre autres dans la grande tradition soufie. Et le soufisme n'était pas donc l'islam mystique, mais qui était un islam extrêmement populaire, et pas du tout comme les mystiques européens, réservé à une petite élite. Et les mécanismes qui se mettent en place dans la seconde moitié du 19e siècle vont pousser la pensée islamique de plus en plus vers la dimension temporelle et la réduction constante de la dimension spirituelle. Et donc cette transformation va produire, mais un peu plus après, après 1900 quand même, au fait qu'on va progressivement construire une utopie islamique qui aurait été celle d'une société parfaite, qui aurait été celle des premières décennies de l'islam, mais cette utopie parfaite est constituée comme un contre-Occident, et c'est là où nous sommes dans les problématiques d'aujourd'hui. Il y avait un auteur protestant au milieu du XXe siècle qui est un excellent islamologue qui s'appelait Cantwell Smith, et Maxime Rodinson avait l'habitude de le citer. Moi j'ai même relu récemment des Cantwell Smith et j'ai trouvé ça très bon, et Cantwell Smith dit quelque part qu'on est arrivé au stade où les musulmans n'adorent plus Dieu mais ils adorent leur propre religion. Mais il faut bien comprendre que cette dimension-là est une réponse à la domination européenne et aux modes d'organisation sociale et aux normes sociales qui viennent du monde occidental. Alors, tout ça, évidemment, avec des tas de prudences, parce qu'à la limite, je ne sais pas ce que c'est l'islam, et je suis absolument exaspéré d'entendre des gens m'expliquer ou qui se prétendent par ailleurs philosophes, que cet islam sait, moi je ne sais pas. À la rigueur, en ayant une conception historienne et sociologique, l'islam c'est ce qu'en font les musulmans, et dans ce cas-là, vous avez une pluralité d'islam, parce que vous avez une pluralité de musulmans, de monde musulman et de culture musulmane.
Oui, sauf qu'on a un peu l'impression aujourd'hui, Henri Laurence, que cette diversité culturelle s'efface, s'homogénéise. Par exemple, en effet, on pourrait dire que chaque région avait l'islam plus sa culture régionale, et que au fond, la diversité était beaucoup plus intense et plus grande, et que maintenant, cette diversité a tendance plutôt à s'homogénéiser. Est-ce qu'on n'en est pas justement à une espèce de réduction précisément, ou y compris à l'intérieur du monde islamique et pas seulement le monde islamique vu par l'Occident?
Bon, là, vous arrivez aux thèses de mon ami Olivier Roy, pour lequel les religions contemporaines, celles qui sont en expansion, sont celles qui abandonnent tout contenu culturel. Oui. Et dans ce cas-là, une certaine forme d'islam, en effet, est négation de la culture. Mais c'est la même chose avec l'évangélisme.
Oui, bien sûr.
Dans le christianisme, donc je ne me rappelle plus le titre du dernier livre d'Olivier, mais ça traitait exactement de cette question. Cela dit, vous inquiétez pas, on a encore un bout de temps avant que les mosquées en France cessent d'être des mosquées maghrébines, des mosquées turques, des mosquées comoriennes, et qu'on arrive à une homogénéisation de l'islam dans la société française qui ferait que les mosquées deviendraient interchangeables. Les variations sont encore extrêmement forte, et puis en plus à un moment ou à un autre naître des formes spécifiques à la société française. Dans un autre domaine, j'ai été surpris il y a quelque temps, j'allais à une messe de requiem à l'église orthodoxe de Paris, et pour la première fois j'ai entendu une liturgie orthodoxe chantée en français, alors qu'on l'entendait soit en grec, soit en russe, soit en arabe. C'était la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Donc là aussi, tout est possible dans les déplacements religieux.
Vous expliquez que dans les années 1880, l'étrangeté des mœurs ottomanes suscite toujours en Europe une intense curiosité. Même si cette curiosité change de nature avec le développement de l'édition de masse, avec les magazines, les livres qui diffusent les récits des audacieux aventuriers et voyageurs. Alors, vous nous parlez également d'hommes aux parcours individuels étonnants, tant en Orient qu'en Occident. Vous nous parlez des travaux des orientalistes et des philologues. Tout se passe comme s'il y avait à cette époque une vraie soif d'altérité, Henri Laurence.
Au XIXe siècle, il est évident que la différence culturelle est beaucoup plus forte que celle d'aujourd'hui. Et en particulier dans la première moitié du XIXe siècle, c'est probablement la période de la différence maximale. Et puis ensuite, dès la seconde moitié du XIXe siècle, les sociétés se rapprochent. Et dans le voyageur européen en Orient, il y a une recherche d'exotisme qui tend à emprisonner la société orientale dans quelque chose qui peut être éventuellement de la pacotille. Déjà, Flaubert et Maxime Ducamp, vers 1850, oui, se plaignent de trouver des Égyptiens qui chantent des chansons de café-concert parisiens. Ils ne sont pas venus sur les bords du Nil pour entendre les guinguettes de la Marne, en quelque sorte. Et aujourd'hui, vous trouvez du Coca-Cola et du Pepsi, et de la musique rock, et de la world music, et tout ce que vous voulez, partout dans le monde. Le danger dans la quête de l'altérité, c'est de produire de l'exotisme de pacotille. Bon, là, je discutais tout à l'heure avec quelqu'un pour raconter la délicieuse histoire de ce Syrien qui est de passage à Paris et qui rencontre un vieux monsieur dont il a oublié le nom. Et on est vers 1708 et le monsieur l'interroge sur des contes arabes. Et comme le monsieur est en train de traduire des contes arabes en français, et qu'il est à court des manuscrits, le Syrien, ben, il lui en raconte d'autres qui connaissaient son manuscrit. C'est ça. Et ses contes, c'est Aladdin, c'est Ali Baba, ouais, etc. Donc ce qui nous paraît comme la quintessence de la culture arabe et orientale sont nés de la rencontre entre un Syrien de 20 ans et un vieil orientaliste, membre du Collège de France évidemment, galant, vers 1707 ou 1708 à Paris. Donc voyez, les interactions sont beaucoup plus... Non, ce qui m'intéresse, c'est les carrières bizarres du 19e siècle, ces trajets inattendus. Moi, j'en citais parce que j'ai commencé, j'étais dans le cours de, ce sera dans le cours de l'année prochaine en partie, mais j'en ai parlé un petit peu. Quand j'expose Renan, la théorie de l'arianisme, tout ça, j'ai fait un colloque Renan il y a quelques années au collège. Je citais pour la popularisation des idées de Renan un texte qu'on ne lit plus aujourd'hui, mais qui était un best-seller au XIXe siècle, qui est le prologue de Bénure de Lewis Wallace, dans lequel les rois mages représentent les sémites et les arias. Et donc ce texte de 1875, et puis je rencontre Lewis Wallace comme ambassadeur des États-Unis à Constantinople en 1882. Et discutant avec un autre de mes personnages, Lawrence Oliphant, de l'arrivée d'immigrants juifs des Balkans en Palestine. C'est ça, ce genre de rencontre qui m'amuse et me fascine.
Laurence, j'aimerais qu'on puisse parler avec vous des questions que vous traitez dans vos cours, vos séminaires et au Collège de France en général, mais que nous n'abordons pas directement sur notre antenne. Alors, par exemple, le travail que vous conduisez dans votre séminaire depuis 2011 et qui s'intitule « La culture politique arabe contemporaine ». Comment est-ce que vous pensez cette question de la culture politique dans le monde arabe ?
Alors, deux choses. Mon séminaire, bon, c'est un titre comme un autre, parce qu'il faut donner un titre pour une affiche. Mmh. En fait, c'est, à partir de 2011, c'était surtout l'occasion de faire venir un certain nombre de mes collègues pour évoquer la situation contemporaine du monde arabe, oui. Surtout avec les échos des événements contemporains. Donc, en général, on a une communication sur l'Égypte, une sur l'Irak, une sur la Syrie, voyez, et puis éventuellement, on fait quelques prolongements historiques. On a quand même des choses sur l'Algérie coloniale, par exemple. C'est en fonction de donner à des collègues la possibilité de s'exprimer dans le cadre du collège et donner à l'éditoire la possibilité d'entendre l'analyse la plus récente faite par un vrai spécialiste de terrain qui a fréquenté ces sociétés depuis longtemps. Et voilà donc ce que nous faisons au collège. Alors, pour la notion de culture politique arabe, bon, évidemment, c'est toujours les problèmes du culturalisme ou de l'essentialisme qui définiraient qu'il existe des cultures politiques, oui, différentes d'un pays ou d'autre. Ce qui est pas, il faut pas le nier. Je veux dire, vous ne faites pas la politique en France de la même façon que les Anglais la font, oui, chez eux, ou les Allemands, et ainsi de suite, parce qu'il y a des expériences historiques, il y a des héritages culturels, il y a des rites, il y a des pays qui ont eu des continuités historiques, des pays qui ont eu des discontinuités historiques. Hein, le Parlement britannique, il est sur le même modèle depuis plusieurs siècles, hein, et ainsi de suite. Donc, dans le cas précis, parce que ce que nous étudions essentiellement, c'est les régions dites moyen-orientales. Je m'aborde peu les questions maghrébines, sauf dans le cadre de l'histoire coloniale, tout simplement parce qu'on ne peut pas tout gérer. Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'on peut appeler la culture politique, c'est surtout la continuité de ce qu'on peut définir comme étant la question d'Orient depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire cette réalité géopolitique diverse dans laquelle acteurs politiques locaux, régionaux et internationaux s'entremêlent dans des alliances, des coalitions, etc. Actuellement, vous avez un paquet de coalitions sur le terrain au Moyen-Orient, avec des acteurs à peu près d'un peu partout dans le monde. Et puis, à partir du moment où vous construisez des réseaux d'alliances ou de contre-alliances, vous construisez des discours pour justifier ces alliances et ces contre-alliances, et vous attirez des soutiens. Et ceci est aussi valable dans les années 1830, parce que jadis, enfin, il y a peu d'années, j'ai pu oublier les discours de Lamartine sur la question d'Orient, pour montrer justement que déjà dans les années 1830, ce type de réalité existait, et puis ça permettait de compléter le voyage en Orient de Lamartine, puisqu'on n'avait pas d'édition des discours récentes des discours de Lamartine avec annotation. Voilà, donc si vous voulez, dans cette mesure, moi j'appellerais question d'Orient quelque chose qui commence dans le dernier tiers du XVIIIe siècle et qui n'est pas terminé dans nos premières décennies du XXIe siècle, et on ne voit aucune raison pour que cela ne s'arrête pas, puisque ça fait déjà 200 et quelques années, que cela dire à cause des positions géopolitiques, des intérêts économiques, et ainsi de suite, dans cette région du monde. Et donc, si vous mettez cela en même temps que la constitution des États, et disons que l'adoption du modèle de l'État moderne à partir du début du 19e siècle, et la question du rattrapage, parce qu'on a le sentiment d'être en retard par rapport au monde occidental, vous avez les bases de la culture politique. C'est, en 1923, Arnold Toynbee avait écrit un livre magnifique qui s'appelait « Western Question », la question d'Occident, et qui commençait par une phrase célèbre. Il n'y a pas de question d'Orient, il n'y a qu'une question d'Occident. Et cette question d'Occident était d'abord dans le premier sens que c'était les puissances occidentales qui se combattaient dans cet espace, mais dans le second sens, c'était l'occidentalisation, parce que à l'époque, Toynbee, en 1922, appelait l'occidentalisation, c'est-à-dire la constitution des États, la constitution des nations, etc., qui était le moteur de cette question d'Occident. Mais en cela, si vous voulez, en partie, dans ma région d'étude n'est pas différente d'autres régions d'études, sauf que l'Inde ou la Chine connaissent le même problème, mais sous le mode de la revanche historique sur les gens qui les ont dominés au 19e siècle, quand la Chine récupère sa place économique dans le système mondial qu'elle occupait au 18e siècle, quand des compagnies indiennes rachètent la sidérurgie européenne et ainsi de suite. Donc il y a un mode de revanche. Dans la région que j'étudie, vous avez des bombardiers, des bases militaires, des alliances, des batailles au sol, et vous avez un moteur qu'on peut dire non plus celui de la revanche, mais celui du ressentiment. Mais un ressentiment qui, en même temps, nous relie toujours sur un rapport d'amour-haine. Si vous êtes dans la domination occidentale, ça aurait été très bien si elle avait été simplement oppressive. Et en ce sens-là, elle aurait provoqué une haine normale par rapport à toute domination.
Absolument, oui.
Et toute oppression, et la question aurait été réglée. Mais en même temps, le mode occidental est attirant, etc. Et le sentiment que les autres pays ont par rapport au monde occidental, c'est ce sentiment d'amour-haine, de revanche et de ressentiment, mais toujours d'attraction. Et si vous prenez 2011, ce qui était intéressant en 2011, c'était la première fois qu'on faisait la révolution, non pas au nom d'une utopie, mais au nom d'une volonté de normalité. On veut être normal, on veut être libre, on veut pouvoir choisir nos dirigeants, on veut avoir les droits normaux que tout être humain doit avoir. Et si vous interrogez les motivations de ces millions de migrants qui partent dans des circonstances absolument catastrophiques à travers la Méditerranée ces deux dernières années, évidemment, il y a des gens qui fuient des zones de guerre et des atrocités multiples qui s'y produisent. Vous avez aussi des gens qui cherchent à améliorer leurs possibilités économiques, éventuellement culturelles.
À vivre mieux,
c'est-à-dire à vivre normal.
Oui.
Et justement, ces gens soit se révolte, soit fuit parce qu'il y a une exigence de normalité, une normalité qui renvoie malgré tout au mode de vie de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest.
Bien sûr. En effet, en même temps, on a l'impression que quand même, quand vous parlez, par exemple, des effets pervers des États occidentaux, par exemple dans l'Empire ottoman, la manière dont l'Europe n'a cessé de faire pression, d'essayer de bâtir des connivences. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on a vraiment l'impression que l'Occident est à côté d'une vision un peu ouverte par rapport au monde arabe. On a vraiment l'impression que les réponses ne sont jamais adéquates. Henri Laurence.
Vous avez surtout des jeux d'alliance, de contre-alliance. Vous avez des forces politiques, économiques et sociales qui recherchent leurs propres intérêts et qui utilisent les autres parties pour y arrivé. Vous avez aussi des phases de synthèse culturelle. Le monde arabe est la partie du monde où le niveau de bilinguisme le plus élevé, soit bilinguisme avec le français, soit avec l'anglais, soit avec les deux éventuellement dans certaines régions. C'est pour ça que quand on parle des problèmes de traduction vers l'arabe, on oublie qu'il y a des millions et des millions d'arabes qui sont bilingues ou trilingues. Je crois que justement il faut abolir ces distinctions Orient-Occident, ou avouer tout simplement que nous avons une part d'Orient dans nous-mêmes et que eux ils ont une part d'Occident eux-mêmes. Ça, c'est un vieux leitmotiv que je tiens depuis que je suis au collège.
Absolument.
Alors pour le reste, vous êtes dans le domaine du politique avec ce qui est plus effrayant. Quand les Européens font une guerre mondiale, elle se développe aussi dans cette région du monde.
Oui.
Plus la première que la seconde, d'ailleurs. Sauf pour la Libye, qui a été un champ de guerre, un champ de bataille entre les Anglais, les Italiens et les Allemands pendant 2 ans, durant Seconde Guerre mondiale. Mais surtout, il faut bien considérer que ce sont des mondes multiples et que l'Europe et l'Occident est multiple et que les alliances. Les Russes sont actuellement en intervention en Syrie, mais la politique russe en Syrie, elle commence dans les années 1770. Donc vous avez des acteurs locaux qui ont l'habitude d'avoir recours aux Russes. Et on pourrait reprendre d'autres éléments du même genre. Vous savez, je vous ai trouvé deux exemples qui étaient très simples. Une fois en 91, j'étais à Beyrouth en train de dîner avec le rédacteur en chef d'un des grands journaux arabes de Beyrouth, plutôt progressiste, qui m'a attaqué bille en tête après Tempête du désert en disant... qu'est-ce que c'était que cette position de la France par rapport au monde arabe en 1790, là, au moment de la guerre, l'invasion du Koweït. Et je lui ai répondu, et le monde arabe, il était où? Il a dit, touché. En 2003, j'avais organisé avec l'aile culturelle de Hezbollah un colloque sur le dialogue des cultures à Beyrouth. J'ai fait une intervention sur la question de l'Europe et la Palestine. J'avais comme président de séance le numéro 2 de Hezbollah, donc j'ai jamais vu un président de séance aussi bien respecté. Et c'était la même chose. J'ai fait le catalogue, si vous voulez, de toutes les turpitudes possibles et inimaginables que les Européens ont pu faire en Palestine depuis 2 siècles. Et puis je leur ai dit, vous voulez qu'on intervienne? Et là, ils étaient embêtés. Parce que en même temps, on condamne ce que nous avons fait.
Ce que nous ne faisons pas.
Ce que nous ne faisons pas, et en même temps, on nous reproche de ne rien faire.
Oui, enfin, la situation a quand même changé depuis, au fond, la destruction de l'Irak, hein, qui a porté un coup très très violent et qui a, au fond, divisé des cultures qui n'avaient pas à l'être, en réalité, comme vous le faites remarquer si bien, Henri Laurence.
Que 2003 était l'annonce de la catastrophe contemporaine, c'est évident. En ce sens, les concepteurs américains avaient parfaitement raison, en disant qu'en donnant un grand coup de pied dans la fourmilière, il la ferait exploser, mais ils ne se rendaient pas compte des conséquences que ça allait produire. Ce qui est tout à fait... Bon, quand on regarde les sources américaines, ils sont tout à fait explicites. L'ignorance démentielle des réalités de la région par les concepteurs de l'opération de 2003 est absolument colossale. Ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs, les Américains n'aient pas d'excellents arabisants, d'excellents diplomates bien connaisseurs. Wikileaks a montré que les diplomates américains avaient une parfaite connaissance du terrain et des sociétés. Simplement, c'est toujours la même chose. Les informations ne remontent pas jusqu'en haut, parce qu'en haut, on prend les décisions sur d'autres motivations.
Henri Laurence, vous avez aussi invité un certain nombre de conférenciers au Collège de France, par exemple Jane Hogan, professeur à Oxford, qui a parlé des jeunes Turcs et de la destruction de la communauté arménienne pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous avez eu une division d'opinion avec votre ami Gilbenstein sur ces questions, qui lui pensait qu'au fond, il n'y avait pas eu de génocide turc en Arménie?
Bon, savoir où se trouvait l'Arménie en 1915 est un autre problème. Je fais justement une conférence à Beyrouth la semaine prochaine sur histoire et génocide, qui est plus un éclaircissement des concepts, parce que je crois que en fait, là on est dans le problème contemporain et récurrent des rapports qui ne sont pas parfois excellents entre Madame Clio et Madame Témis.
C'est ça. Oui.
Entre l'histoire et la justice.
Exactement.
Et en ce sens, comme les historiens sont des gens qui piquent les idées des autres, les concepts des autres, parce qu'une bonne partie du vocabulaire des historiens est piqué aux sciences sociales et au droit, et inversement d'ailleurs, nous introduisons toujours la durée, ce que les autres ne prennent pas suffisamment en compte.
Oui.
Mais pour revenir à la question, si vous êtes dans une conception juridique stricte, celle des juristes, il y a la convention 1949 définie par Lenkin sur la prévention des crimes de génocide, qui est donc la prévention. Ce qui fait que, par exemple, à Nuremberg, on n'a pas condamné les dirigeants nazis pour génocide parce que le concept de génocide n'existait pas à Nuremberg. Et que même si Lenkin... Oui. Mais Lenkin avait déjà créé le terme, mais n'était pas encore entré dans le corps de droit, et non que dans le corps de droit de 1949. Entre Lenkin et la première application juridique, entre 1949 et la première application juridique, il y a près d'un demi-siècle. Puisqu'il faut attendre les tribunaux internationaux des années 1990 pour commencer à émettre des arrêts de justice sur des accusations de génocide.
Tout à fait, oui. C'était très tardif, vous avez raison, en effet, de le rappeler, Henri Laurence. C'est très récent, cette notion de génocide.
Il y a ce qu'on appelle le statut de Rome, qui, de mémoire, parce que je n'ai pas mes notes sous les yeux, doit être de 1998, qui met dans le même corps de droit l'héritage de Nuremberg et Lenkin et la Convention, puisque c'est donc ce qui définit la Cour pénale internationale, dans lequel à la fois les crimes contre l'humanité et Nuremberg et Lenkin, le génocide, s'y trouvent. Donc, si le génocide est défini strictement de façon juridique, il faut qu'une Cour de justice puisse avoir émis un jugement, et que cette cour de justice les fait après enquête et procédure éventuellement contradictoire, ce qui est fait depuis le début des années 90. Le second point, c'est que le texte de Lenkin, pour des raisons évidentes, c'est un texte qui a été forgé durant la guerre froide, et donc pour que les soviétiques acceptent le texte proposé par Lenkin, on a défini le crime de destruction que sur les autres et pas sur soi-même. C'est-à-dire que, évidemment, destruction de groupes sociaux ne pouvait pas être considérée comme un génocide, puisque de ce qui est là, les koulaks en Union soviétique auraient été considérés comme un génocide. Mais on est allé très loin, puisque le génocide, c'est détruire des autres, dans la définition de 1949 reprise par le statut de Rome. Ce qui fait que ce qui s'est passé en Cambodge n'est pas un génocide sur le plan juridique, puisque ce sont des Cambodgiens qui ont tué des Cambodgiens. Ce sont des crimes contre l'humanité.
C'est ça.
Donc, si vous voulez, si vous en tenez à la définition juridique stricte, vous n'avez d'acte de génocide que défini par un tribunal et que ce n'est pas donné rétroactif. Donc, il y a une seconde définition, mais qui n'est plus une définition juridique, qui est une définition d'historien de sciences humaines, qui est la destruction d'un groupe humain. Et dans ce cas-là, vous avez une définition du génocide qui est plus large, et qui intègre évidemment la destruction des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale, qui intègre bien évidemment la destruction des Arméniens et au-delà des communautés chrétiennes anatoliennes entre 1915 et 1923, qui intègre la destruction de la plus grande partie des communautés indiennes, amérindiennes en Amérique du Nord au 19e siècle, et ainsi de suite. Là, vous avez des génocides au pluriel. Alors, on peut y avoir des discussions, par exemple, pour savoir si la Vendée est un génocide ou non durant la Révolution française. Ça n'en est pas un, probablement, et mon ami Clément Martin a encore fait une explication de texte pour montrer que ça ne peut pas être appelé un génocide. Mais
oui, c'est une guerre civile, plutôt.
Oui, mais donc là, si vous voulez, vous n'êtes...
Toute guerre civile n'est pas un génocide, justement. Enfin, c'est très compliqué,
non,
en effet.
Non, mais ce qui compte, si vous voulez... C'est que si vous prenez une définition large des génocides, c'est-à-dire qui prend la définition que vous tuez des gens qui appartiennent au même groupe que vous, vous n'êtes plus dans la définition juridique. Mais là, vous avez champ ouvert pour définir comme génocide un ensemble d'actes historiques sur les deux derniers siècles. Alors, on pourrait aussi remonter jusqu'à la plus haute antiquité. Si vous faites des calculs de nombre de morts qu'a dit César dans la guerre de Gaulle, il aurait tué 2 millions de Gaulois en 10 ans. Hannah Arendt, je crois, ou Simone Veil, jadis, avait fait la comparaison entre les nazis et les Romains, parce qu'elle connaissait ces textes. Sauf que, bon, ensuite, Rome a été autre chose aussi. Mais je veux dire, ou les Assyriens, ou ceux que vous voulez. Le problème, c'est que les sciences sociales manquaient de vocabulaire, et vous avez une relation complexe entre les sciences sociales et les sciences juridiques qui fait qu'on passe de l'un à l'autre. La langue du 19e siècle connaissait atrocité, massacre et éventuellement extermination. Aujourd'hui, vous avez destruction, parce que le terme de génocide, ça veut dire de destruction. Hein, la définition, toutes les définitions de génocide démarrent par destruction. Et comme vous êtes dans le domaine du juridique, le terme clé, c'est destruction intentionnelle. Alors, pour revenir à votre question sur 1915, il y a maintenant consensus des historiens pour dire qu'il y a eu destruction intentionnelle des Arméniens en 1915.
D'accord. En 2014, vous avez organisé un cycle, Henri Laurent, sur la grande révolte arabe du 21e siècle, considération sur le bouleversement en cours dans l'espace arabophone. Vous avez écrit un texte qu'on peut trouver d'ailleurs très facilement sur le site internet du Collège de France sur ces questions, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais simplement savoir comment est-ce que vous analysez la situation actuelle. Vous êtes effectivement, pour des raisons d'ailleurs personnelles et pour des raisons de savantes liées au Liban, vous y allez fréquemment. Qu'est-ce qui se passe?
Si vous voulez, encore une fois, les historiens prennent en compte la temporalité. Et en ce sens-là, le cycle historique qui a commencé en 2011 est loin d'être terminé. Parce que si vous avez 20 ans en 2011, vous pouvez encore être politiquement actif à 70 ou 75 ans, ce qui vous renvoie donc vers 2060, 2070... vous pensez que la mini-vaguelette française de mai 68 trouve encore des gens 47 ans après pour critiquer l'esprit de mai 68 qui a détruit la société française, et que nous entendons encore M. Daniel Cohn-Bendit, pour lequel j'ai la plus grande estime par ailleurs, à la radio? Donc simplement pour vous dire que ce qui a démarré en 2011 n'est pas terminé en 2016, loin de là, parce que si on n'a pas eu la démocratie, si on n'a pas eu la normalité, ce que je l'avais d'ailleurs dit à l'époque, j'avais dit qu'en tout cas, ce qu'on avait, c'était la politisation. Donc ça, c'est un premier point essentiel. Donc le débat d'aujourd'hui, c'est une partie qu'on a évoquée d'ailleurs dans plusieurs des séminaires qui ont été tenus au collège et en dehors du collège, c'est le problème révolution contre révolution. La révolution, c'est à peu près où elle est. Mais la contre-révolution, c'est un peu plus compliqué. Bah, le problème est de savoir si on nous mettons les islamistes dans la révolution ou dans la contre-révolution. Alors, selon les uns ou selon les autres, le classement se fait dans des cases différentes. Prenez la situation en Égypte, il est bien évident que le régime de M. Sissi est un régime contre-révolutionnaire, soutenu par les pays du Golfe et ainsi de suite. Il tape sur les révolutionnaires de 2011 et sur les islamistes frères musulmans. Alors, il reste à savoir si on met les frères musulmans dans la révolution, dans la contre-révolution. Je pense qu'aussi, il faudrait qu'on prenne une vision plus plurielle des sociétés arabes et des événements contemporains, un peu comme l'excellent travail que M. Clément Martin est en train de faire sur la Révolution française, il est en train d'en restaurer la multiplicité.
J'aimerais qu'on revienne au Liban.
Vous savez, je crois que les Libanais sont surtout extrêmement fatigués parce qu'ils ont un système politique complètement bloqué. Et le problème fondamental, qui est un vieux problème, pas seulement dans cette région du monde, qui est dans quelle mesure les institutions et les régimes politiques doivent refléter des structures profondes. Donc les gens sont prisonniers de leur appartenance communautaire parce qu'ils ne peuvent pas accéder à des fonctions publiques si on ne prend pas en compte une répartition communautaire. Et en même temps... Les Libanais sont des hypocrites au sens où ça plaigne constamment des interventions des autres sur eux, mais en même temps ils se remettent systématiquement aux autres pour résoudre leurs problèmes. Et donc les gens que vous allez rencontrer au Liban vont se plaindre constamment de leur classe politique, mais ils iront comme un seul homme ensuite pour voter en fonction pour ces mêmes hommes politiques et les maintenir au pouvoir. L'un des éléments des problèmes libanais d'aujourd'hui, c'est que vous avez toujours les mêmes seigneurs de la guerre qui sont là, Aoun Nasrallah, le chef de Hezbollah, général Aoun, Samir Jaja, Walid Jumblat, Nabiberi, donc la plus grande, une bonne partie des chefs politiques du Liban sont les anciens chefs de guerre de la guerre civile. Ce qui rend très difficile pour les Libanais, ne serait-ce que d'aborder ces 15 années de violences qui ont été commises de tous les côtés.
D'autre part, Henri Laurence, est-ce qu'on peut dire que la Syrie n'existe plus ?
Oh, la Syrie n'existe plus. Ce que l'on a, au moment où je vous parle, parce que tout se transforme à toute vitesse, donc, ce qu'on a, c'est actuellement, c'est le triomphe du localisme. Il y a quelqu'un qui est maître de son petit coin, de son canton, des quelques kilomètres carrés autour de là, où sa milice exerçait son pouvoir et ainsi de suite. Donc, c'est un pays fragmenté. Un archipel de lieux. Même l'État islamique, ce n'est qu'une fédération par la terreur de forces locales. Donc, le danger avec ce type de localisme, c'est le fait que on a tendance à faire du nettoyage ethnique et de chasser ceux qui ne sont pas de bons groupes pour avoir un local tout un peu plus homogène et un peu plus durable. Donc, la reconstruction de la Syrie sera difficile, surtout si on maintient le régime actuel. On ne voit pas comment, si on maintient le régime actuel, on peut reconstruire la Syrie. Ça, c'est un des éléments du problème. Mais la Syrie n'a pas disparu au sens où elle aurait été remplacée par autre chose. Elle s'est fragmentée en dizaines ou centaines de pièces. C'est un puzzle et il faudrait réussir à remonter le puzzle.
C'est le problème des tyrans. Quand les tyrans disparaissent, tout s'effondre. Le problème, ça veut dire que le tyran maintenait juste quelque chose par la tyrannie qui n'avait pas lieu d'être, au fond.
Et surtout qu'il n'avait rien construit. Pour le régime de Bachar, il est évident que ce régime ne tient que par le soutien extérieur, puisque s'il n'y avait pas eu des milliers de soldats du combattant du Hezbollah, des milices irakiennes, iraniennes et autres, russes, il y a très longtemps que ce régime s'est effondré. Donc, tandis que ceux qui le combattent sont essentiellement des forces locales, comme disait M. Obama, ce sont des dentistes, qui sont pas des vrais militaires, ce sont quand même des gens comme ça qui ont fait la révolution américaine au XVIIIe siècle.
La moyenne bourgeoisie.
Si, voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y avait, j'étais partisan à l'époque, en 2013, une possibilité d'intervention dans la mesure où on avait défini des lignes rouges et que les lignes rouges avaient été dépassées. Bon, il s'est trouvé que les opinions publiques britanniques et américaines n'en voulaient pas, et que donc le Parlement britannique a voté contre, et que M. Obama a senti que le Congrès des États-Unis ne le soutiendrait pas sur ce point, donc il a accepté le compromis russe de l'inspection des armes chimiques, ce qui revenait à donner une autorisation à M. Bachar al-Assad de tuer par tous les moyens, sauf les armes chimiques.
Deux des jeunes collaborateurs qui participent aux travaux de recherche de votre chaire, donc la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe, viennent de publier un texte très intéressant intitulé « Les racines de l'État islamique » qu'on trouve sur le site internet de la Vie des idées, site créé par votre collègue Pierre-Rosan Vallon. Alors pensez-vous, Henri Laurence, qu'on mettra du temps pour détruire cet État criminel ?
Malheureusement, il n'y a pas de solution autre que militaire. Bon, pour le reste, les militaires vous diront ce qu'on a face de nous, c'est un territoire. Donc c'est plus facile. Parce que tant que les réseaux terroristes sont organisés de façon non territoriale,
on peut rien faire.
Tandis que là, il y a un territoire. Donc il y a une possibilité de reconquête, etc. Le reste, c'est comme toujours en politique, une question d'analyse des coûts. C'est-à-dire, est-ce que nous accepterions éventuellement de faire une expédition militaire avec plusieurs dizaines de milliers de soldats sur le terrain pour liquider ces gens-là? Ça, en 15 jours, on le fait. Hein. L'armée américaine, elle a détruit le régime de Saddam Hussein en 3 semaines. Donc, ça, c'est techniquement faisable. Est-ce que c'est financièrement et politiquement faisable? C'est une autre question. Ou est-ce que l'on préfère faire durer le plaisir parce que ça nous coûte moins cher, et ainsi de suite. Vous voyez, bon, ça, ce sont des analyses différentes. Et de toute façon, nous, Français, nous sommes un peu secondaires dans l'affaire parce que nous n'avons pas les moyens militaires, en particulier sur le sol, pour des actions de ce genre. On est plus sous la 3e ou 4e République.
Merci beaucoup, Henri Laurence. Merci infiniment. Thank you.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Henri Laurence, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Demain, nous entendrons l'entretien que nous a accordé Carlo Ossola, titulaire de la chaire des littératures modernes de l'Europe néolatine. Belle journée à tous. À l'écoute de France Culture.